BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel.
Bonsoir, c'est un grand plaisir de vous accueillir sur le plateau de Tech & Co, la quotidienne. Alors on s'arrêtera à 21h ce soir exceptionnellement, il y aura les Grands Prix Check-up Santé, voilà, sur toute l'innovation dans la santé avec Fabien Guez et Noémie Vira, ce sera à 21h, mais nous, on est ensemble pendant une heure, on a beaucoup de sujets dont on va parler, notamment Meta. Vous savez, Meta ouvre un peu la période, la saison des résultats trimestriels, et plutôt des bons résultats pour Meta avec un bénéfice multiplié par deux, un chiffre d'affaires en hausse de presque 40%, et pourtant le marché, lui, n'a pas apprécié. Le cours de bourse a un peu chuté. Il paraît que Mark Zuckerberg veut trop dépenser dans l'IA ou veut remettre encore de l'argent sur le métaverse. On va en parler avec nos débriefeurs. On va aussi parler de Neucyber. Neucyber, c'est pas Neuralink, c'est Neucyber et c'est le Neuralink chinois. Justement, on a appris que les Chinois travaillaient aussi sur ce genre d'implant. Alors, est-ce qu'il faut y croire? Est-ce que vraiment il y a une bataille qui est en train de se lancer dans ce domaine? On en parlera également avec nos experts. Et puis, troisième sujet, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il voudrait une majorité numérique à 15 ans. Est-ce que c'est possible techniquement? Est-ce que c'est possible légalement? Est-ce que c'est possible aussi sur la protection des données? On va en discuter. Donc, vous voyez, beaucoup de sujets. Allez, restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 21h, Tech & Co sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et le débrief de la tech avec nos experts ce soir. Marion Moreau, bonsoir.
Bonsoir.
Marion,
oui.
Merci d'être avec nous, journaliste et fondatrice de Hors Norme Média. C'est une newsletter alors tech et géopolitique, et notamment avec Pierre Aski, que l'on connaît tous, hein, qui connaît parfaitement tout l'univers de la géopolitique. Et j'imagine qu'en ce moment, il ne doit pas chômer avec tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. À tes côtés, Yacine Achiac, bonsoir.
Bonsoir.
Yacine, merci d'être avec nous. Tu es cofondateur PDG de Wizir. Wizir, c'est une interface, alors c'est dans la deep tech, et une interface neuronale homme-machine. Et d'ailleurs, ce sera intéressant parce qu'on parlera justement de ce qui est en train de se faire. Il y a les visions pro, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, les Neuralink. Enfin voilà, on aura ton expertise dans ce domaine. Et puis, Jérôme Marin. Bonsoir, Jérôme.
Bonsoir.
Fondateur de la newsletter cafetech.fr. Je vais reprendre ce que disait François Sorel il y a 15 jours. Elle est bien gratuite. Inscrivez-vous, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans la tech avec Jérôme Marin et sa lettre cafetech.fr. Alors, on va ouvrir le bal tout de suite avec Meta, avec des publications, donc Meta qui a ouvert la publication des GAFAM. On va écouter d'abord Anthony Morel, qui est journaliste à la rédaction de BFM Business. Il nous explique un petit peu pourquoi, malgré les très bons résultats, le titre est en forte baisse, et parce que Mark Zuckerberg s'est un peu étendu sur les investissements qu'il comptait faire en IA, sur les investissements qu'il comptait maintenir dans le métaverse. Ça n'a pas franchement, les investisseurs n'ont pas franchement apprécié. Écoutons ce qu'on dit Anthony Morel.
En gros, le message, et Mark Zuckerberg, il est assez clair là-dessus avec les investisseurs. Ce qu'il essaye de faire passer, c'est que devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle, un, ça va coûter cher, et deux, ça va prendre du temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ils ont musclé leur effort, j'allais dire, ils ont montré un peu leur jeu dans le domaine de l'IA ces derniers jours, Mark Zuckerberg et Meta. Ils ont lancé Llama 3, qui est leur moteur de langage. Ils ont intégré l'intelligence artificielle à Facebook, à Instagram, à WhatsApp. En tout cas, pour l'instant, aux États-Unis, ça va probablement arriver en France, mais ça va continuer et ça va coûter de l'argent. Les chiffres font un peu peur, c'est vrai. 35 à 40 milliards de dollars d'investissement cette année, même pour un géant de la tech, c'est une somme. Pourquoi ? Parce que il faut de la recherche et développement, il faut des serveurs, des infrastructures pour faire tourner l'intelligence artificielle, et ça va continuer. Alors, Mark Zuckerberg, ça ne l'inquiète pas du tout. Lui, il estime que la vie d'une entreprise, elle est faite de cycles, et qu'il est dans la phase où il faut dépenser sans compter ou sans trop compter pour préparer les profits de demain ou d'après-demain. Et il explique que par le passé, ça a déjà été le cas plein de fois dans l'histoire de Meta, quand ils ont lancé les Reels, les vidéos courtes sur Facebook, quand ils ont lancé les Stories sur Instagram, quand on est passé d'un mode où on consultait Facebook sur son ordinateur à un mode purement mobile. On a oublié cette époque, mais tout ça, ça a été des périodes d'investissement massif dont Meta a récolté les fruits quelques années plus tard.
Alors Jérôme, les soirées se suivent et ne se ressemblent pas, puisque hier on avait Tesla qui annonçait des résultats un peu en berne, 55% de ventes en moins, un bénéfice en berne, et puis l'action qui grimpait en flèche parce que justement Elon Musk, alors lui parlait d'IA, parlait de son modèle, un modèle d'entrée de gamme qu'il comptait sortir d'ici quelques mois, ça rassurait les investisseurs. Et là, on a Mark Zuckerberg, des bons résultats, hein, on a plus de 27% pour le chiffre d'affaires à 36 milliards et demi de dollars, des profits multipliés par 2, 12,4 milliards contre 5, un peu plus de 5 l'année dernière. On a quand même 3,24 milliards d'utilisateurs, alors sur tout l'ensemble, hein, WhatsApp, Instagram, Meta et puis Thread, il faut le compter là-dessus. Et pourtant, voilà, l'action chute de 15%.
Ouais. Mais en fait, il faut bien voir qu'aujourd'hui, l'action de Meta, elle est décorrélée totalement des résultats financiers de Meta. Quand elle chutait il y a 2 ans, c'était décorrélé des résultats financiers. Quand elle a remonté depuis quelques mois, c'était aussi décorrélé des résultats financiers. Meta se porte bien, s'est toujours porté bien, il gagne beaucoup d'argent, la machine publicitaire tourne bien. Ce qui inquiète les marchés, c'est les investissements. Il y a 2 ans, c'était les investissements dans le métaverse, oui, où on dépensait sans compter et on se disait, en tout cas Wall Street se disait, quand est-ce que ça va porter ses fruits ? Aujourd'hui, Zuckerberg a répondu en disant, on va faire l'année de l'efficacité, ils ont licencié, ils ont limité les dépenses.
C'est près de 22 000 personnes.
Ils ont beaucoup licencié, j'ai plus les chiffres en tête, mais ils ont énormément licencié. Et là, il arrive, il dit, ben finalement, maintenant, on va réinvestir. Et au lieu d'investir 35 milliards ou entre 30 et 35 milliards, on va dépasser jusqu'à 40 milliards de dollars l'année prochaine. Et surtout, l'IA, c'est des années. Voilà, il a très bien dit. Il a dit, c'est des années d'investissement et on ne sait pas quand est-ce que ça va porter ses fruits. Alors après, dans son intervention, il a décrit les modèles économiques. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Mm-hmm. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que retient les marchés, c'est qu'en fait, il s'était un peu assagi Zuckerberg et là, mais il rouvre le portefeuille et il est prêt à redépenser beaucoup d'argent.
Surtout qu'hier, c'est Llama 3 hein, qui a été annoncé, qui est en open source. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le replay avec Alexandre Lebrun, qui est un ancien développeur IA. Il a travaillé sous les ordres directs de Yann Lequin. Il nous a décrit un peu tout le côté open source et pourquoi c'était important. Mais justement, open source, c'est ouvert. C'est pas censé, pour l'instant, rapporter de l'argent. Alors, il y a d'autres IA. Il n'y a pas que de l'IA générative. Il y a tout un tas d'autres IA. Ton regard là-dessus, Yacine ?
Moi, je pense que c'est bien ce qu'il fait. Je pense qu'on est... On est à une période où on voit bien qu'on arrive à la fin d'un cycle technologique. Il n'y a plus d'innovation sur smartphone. On a quelques wearables comme les écouteurs, comme les montres. Mais on arrive à la fin d'un cycle technologique et il y en a un nouveau qui s'ouvre. Et ce nouveau, il est porté par deux mots, par l'intelligence artificielle et par la réalité augmentée, ce qui sont effectivement les deux sujets principaux d'investissement de Mark Zuckerberg. Et les investisseurs qui ne sont pas contents aujourd'hui, je pense qu'il y a une vision très court-termiste de est-ce que je peux générer des profits à 12 mois, à 24 mois. En revanche, si jamais on veut se positionner, Meta en particulier, comme une boîte qui sera encore là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et je pense que c'est la vision de Mark Zuckerberg, il faut investir sur ces sujets-là. Et ils le font très bien, en fait. Il y a eu beaucoup d'essais, on a beaucoup critiqué le métavers, mais si on prend par exemple plus récemment les Ray-Ban Meta Stories, qui sont donc les lunettes qu'ils ont créées avec les caméras.
Ils viennent de sortir d'ailleurs la nouvelle version en intégrant de l'IA.
Exactement. Et en fait, ça marche très bien. En gros, je parlais récemment avec John chez Qualcomm, ils n'ont pas assez de chipsets pour pouvoir équiper l'ensemble de la demande qui est nécessaire sur ces lunettes-là. Donc, il y a des essais qui sont faits, on n'a pas encore trouvé le chemin exact, mais c'est sûr que s'ils n'investissent pas, ils seront à la ramasse. Et le fait d'investir, ça leur permet d'être toujours resté un peu en avance de phase par rapport à la compétition. Donc,
et les marchés, qu'est-ce qui le punissent alors, selon toi ?
Moi, je pense que c'est une vision. Déjà, il y a une incompréhension, il n'y a pas forcément de vision sur ce qui est en train de se passer. Il y a peu de gens qui investissent à 10 ans, à 15 ans, et ça, on y reviendra après sur Mistral. Mais il y a peu de gens qui investissent aujourd'hui sur 10 ans, 15 ans. Les gens envie d'avoir des retours sur investissement à 1 an, 2 ans, 5 ans.
Puis après, il y a aussi, et c'est vrai qu'on en parle plus souvent, d'ailleurs, ils en parlent, je vous renvoie sur un podcast aussi, celui de BFM Bourse cet après-midi, où ils parlent justement des mécanismes boursiers. Hein. Il y a aussi ça dont il faut tenir compte. Voilà, il y en a qui, que ce soit Facebook, que ce soit Tesla, que ce soit un autre, ils sont en train de jouer, alors quand ça va toucher tel pic, je vends, j'achète. Il y a aussi ça hein, dont il faut tenir compte. Marion, toi, alors comment tu vois Mark Zuckerberg qui a toujours réussi à, je ne vais pas dire rebondir, parce que finalement, quand il y a eu l'histoire du mobile, on s'est dit, tiens, il a raté le virage du mobile, et puis là, il est bien reparti. Parce qu'il n'a jamais vraiment chuté, donc on ne peut pas dire qu'il est rebondi. Il a progressé, il a eu quelques petits trous d'air, mais globalement, la stratégie est plutôt bonne.
En tout cas, c'est l'homme qui représente Meta. Hein. Meta, je ne sais plus combien de salariés, mais c'est quand même un groupe assez gigantesque. Moi, je me rappelle très bien, effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le virage technologique aujourd'hui, que la planète est en en train de prendre. Je me rappelle des premiers rachats. Souvenons-nous de WhatsApp, Instagram. Tout WhatsApp, ça, c'était assez visionnaire.
On le disait avant l'émission avec Jérôme. WhatsApp, moins aux alentours de 1 milliard de dollars.
C'est ça,
Instagram.
C'était énorme.
Instagram, pardon. Oui. WhatsApp, c'était 19 milliards.
Ouais, 19
Instagram,
1 milliard.
Donc, il a fallu quand même, j'imagine déjà à cette époque, convaincre les investisseurs qu'il fallait investir dans des apps, des features, qui étaient quand même que des features au départ. Là, c'est différent. Là, je pense que tu as raison. Aujourd'hui, Meta, comme d'autres big tech, sont en train d'investir dans de l'infrastructure. Ils ont acheté énormément de stocks de chips. On est revenu sur l'infrastructure, la notion d'infrastructure web. Je ne sais pas si on peut parler d'un web 4 en tout cas, il serait intéressant de réfléchir à ce saut quantique dans l'étape en fait de l'ère connectée. Et c'est vrai que Meta aujourd'hui doit investir sur du long terme. Je dis pas que WhatsApp et Instagram n'étaient pas des investissements de long terme, mais le web social était déjà bouillonnant. Mmh. Et donc, c'était peut-être facile de dire aujourd'hui aux actionnaires, il y a un écosystème existant, il y a Apple, il y a les fournisseurs de devices, il y a des OS qui tournent bien, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Ça veut dire qu'il faut investir massivement sur des capacités de cloud, il faut investir massivement dans les chips, racheter des startups. Moi, je suis sûre que Meta va faire des acquisitions très rapidement, comme les autres d'ailleurs. Mmh. C'est la même chose chez Amazon, c'est la même chose chez tous les big tech. Mais tous ces acteurs-là qui ont les moyens aujourd'hui de leurs ambitions regardent vers l'avenir, mais sur un temps beaucoup plus long. C'est comme ça que je le vois.
En plus, avec des business models un peu différents, parce qu'on peut dire que pour Amazon, avec son cloud derrière AWS, pour Microsoft, avec son cloud derrière, pour Google, avec son cloud, ils sont moteurs de recherche. Enfin, ils ont déjà une solide assise. Bon, Meta a son chiffre à faire publicitaire. D'ailleurs, ils l'ont dit, on a plusieurs applications IA, on est en train de travailler avec nos clients pour voir comment on va développer des choses pour eux. On le rappelle, je l'ai dit en ouverture, mais 3,24 milliards d'utilisateurs plutôt actifs, on va dire. Donc,
mais en fait, je pense que ce qu'il y a avec Meta, c'est que on vient d'une période où il y a eu le métaverse. Et ils ont tellement investi, et ils ont perdu encore 3 milliards, je crois, de dollars ce trimestre dans le métaverse, la division Reality Labs, qu'il y a une sorte de méfiance, en fait, vis-à-vis de Zuckerberg. De dire oui.
Selon toi, c'est parce qu'il a prononcé le mot métaverse, il aurait dit juste on va investir en IA et tout ça, il y aurait peut-être moins.
Je pense, en plus, le métaverse, il en a parlé, il a beaucoup parlé d'IA, en fait.
Il continue. Ouais.
Et je pense que le vrai problème, le vrai problème pour les marchés, en tout cas, c'est qu'il a dit c'est des investissements, un plan d'investissement sur plusieurs années. Et en fait, ils n'aiment pas les marchés, ça. Et vous l'avez très vite, il y a des stratégies court-termistes. Mais il y a aussi le fait qu'on commence à se rendre compte que l'IA, ça coûte cher, en fait. Et que peut-être que dans la hype de ChatGPT et de tout, on n'a pas réfléchi à ça. Et les marchés n'ont pas réfléchi à ça. Et on a vu des actions qui ont augmenté très fortement. Et Nvidia, par exemple, est en chute libre depuis plusieurs semaines. Parce que l'IA, ça coûte très cher. Et que derrière tout l'engouement qu'il y a eu, il n'y a pas de business model encore vraiment qui marche.
Et ça coûte cher en techno, et ça coûte cher, on pourra en parler aussi, en consommation d'énergie. On voit quand même pas mal de choses. Après, il y a autre chose que je lisais une analyse aussi qui disait, ils visent peut-être une croissance un peu plus au ralenti en Q2, avec sans doute que le mois d'avril a peut-être été moins bon en pub. La concurrence qui reste forte. Alors certes, TikTok est un peu chahuté, mais on voit les autres réseaux. Peut-être un petit signal aussi faible d'un projet qui est en train de un peu mieux marcher, c'est Threads. On a vu qu'aux États-Unis, alors il y a une étude qui dit que Threads est remonté au niveau en utilisateur actif de X, Twitter. Après, il faut voir que Threads est très lié avec Instagram, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que ceux qui postent sur Instagram savent pas qu'en même temps ça va sur Threads, donc il y a un peu tout ça. Mais comment il faut voir la suite, Marion ?
Alors, je rajouterais à ce que tu dis, que tu as tout à fait raison de citer un peu ces autres signaux parallèles, c'est que la presse américaine reporte aussi ces dernières 24 heures par rapport aux mauvais résultats. C'est pas des mauvais résultats, c'est un cours de bourse. Et un cours de bourse, on sait qu'il est volatile. Donc ça a été, souvenez-vous, Facebook a mal démarré.
Les profits, c'est 12 milliards. Ils sont en banque.
Exactement.
Et surtout, juste avant les résultats qui viennent de se passer, le cours de Meta était à son plus haut historique. Hein,
exactement.
Pas non plus se tromper sur ce qu'on est en train de regarder.
Plus 42%,
Exactement. Non, ce que dit la presse américaine que je trouvais intéressant, c'est aussi tout l'écosystème, donc des big tech évidemment, c'est aussi les. apparemment les accords de la nouvelle politique de confidentialité d'Apple qui déstabilise aussi le business de Meta et qui déstabilise le business d'autres acteurs.
Ça c'est un peu passé en fait. C'était en 2022 pardon. Donc c'est un peu passé.
Mais ça rassure pas vraiment les investisseurs.
Je pense que c'est un peu passé parce qu'ils sont quand même réussi à passer outre et à reprendre une croissance qui remonte.
Mais c'est là où justement il y a pour moi une espèce de schizophrénie des investisseurs, c'est que d'un côté ils avaient peur de ça et de l'autre côté quand on leur dit maintenant on va avoir notre propre hardware, on va avoir nos propres objets, comme ça on s'affranchit d'Apple, il y a aussi une peur en fait. Donc qu'est-ce qui est vraiment attendu par le marché, pour moi c'est assez peu clair.
Et tu parlais justement, Yacine, des lunettes, donc là aujourd'hui c'est les, alors on se souvient de l'époque Google Glass, là on est vraiment, ils ont signé Ray-Ban, donc c'est les les Wayfarer, le modèle classique, enfin historique de Ray-Ban, auquel, alors avant c'était juste pour filmer, prendre des photos, là ça y est on commence à mettre un peu de multimodal, d'intelligence artificielle, on va regarder un monument, hop, on va pouvoir le Meta, dis-moi quel est ce monument, il va nous raconter l'histoire. Enfin là je trouve qu'on est en train de franchir une étape
Mais on en revient encore une fois à cette histoire de Meta essaye plusieurs choses, en fait on est en train de regarder, personne ne comprend vraiment ce qui va se passer, mais ce qui est sûr c'est que pour pouvoir y arriver il faut tester. Donc on a une stratégie qui consiste à dire je vais faire des toutes petites lunettes avec des caméras et avec ça j'aurai une expérience très réduite, principalement basée sur la voix, et ça va marcher. Je vais aussi faire un casque, le Quest 3, qui va être un casque de VR avec une très bonne résolution.
Que je vais ouvrir d'ailleurs à d'autres.
Que je vais ouvrir, que je mette à un prix qui est achetable par la majorité des utilisateurs, et là-dessus je vais me différencier d'un Apple qui lui tente une troisième voie qui est de dire je vais construire un objet qui est un objet qui avec une qualité de ce qui peut se passer dans 5 ans, une qualité de résolution qui est incroyable, mais que je mette à un prix qui est complètement
$3,500,
impossible à acheter. Et je pense que ça prouve juste que la direction on la connaît. Par contre, le chemin pour y arriver est encore un petit peu à clarifier. Et Meta, pour moi, c'est pour ça qu'ils font les bons choix. Ils font les bons choix.
Surtout que faut rappeler que il avait son bras droit, Sheryl Sandberg, qui est partie il y a quelques mois et qui vraiment elle voulait changer de vie, donc et qui était quand même une de ses âmes pensantes là. Donc il doit reconstituer un peu ses équipes. Bon, il y a des gens avec qui il est depuis pas mal d'années en qui il a confiance, mais quand même. Faut que les gens autour de soi se renouvellent ou soient renouvelés.
Je ne sais pas si c'est pour le coup une erreur, parce que Sheryl Sandberg, c'était la croissance du modèle de publicité. En gros, c'était la croissance du modèle traditionnel. Là, aujourd'hui, le fait d'avoir Andrew Bosworth, maintenant, qui est CTO et qui, lui, pour le coup, a toujours incarné une innovation assez forte, je pense que c'est plutôt positif pour la boîte. Le fait d'avoir un Michael Abrash aussi, qui est directeur du Reality Lab Research, d'avoir Yann Lequin. En fait, on a quand même des têtes pensantes assez fortes avec des visions long terme. Le fait d'avoir des chercheurs qui sont assez positions aussi critiques, c'est pour moi ça. Encore une fois, c'est peut-être qu'ils se trompent et peut-être que je me trompe aussi, mais j'ai le sentiment qu'en fait c'est la meilleure stratégie qu'ils ont pour dans 10 ans, 15 ans être encore une boîte qu'on peut considérer comme une des boîtes les plus importantes dans le monde, quoi.
Jérôme. Juste ce qui était intéressant, donc quand hier il a commencé à parler Mark Zuckerberg, donc l'appel téléphonique avec les analystes après les résultats, il a parlé que d'IA quasiment. Il a parlé d'IA, après il a parlé un peu de métaverse et Facebook, WhatsApp, Instagram, en deux secondes c'était fini, quoi. Tout va bien, on passe. Et donc vraiment on a une entreprise qui est vraiment centré sur l'IA, et vraiment l'IA c'est le maximum. Mais c'est rigolo parce qu'il y a un an c'était pas le cas en fait.
D'ailleurs c'est l'IA qui a un peu coupé les ailes du métaverse au moment où il lance métaverse. Bon, même si ça n'a pas embrayé derrière, tout d'un coup pof, OpenAI est arrivé, et alors là ça a été
on en parlera peut-être tout à l'heure avec Apple en fait. Apple, le Vision Pro, ils sont arrivés un peu en retard, quoi. Ils sont arrivés au moment où il y avait l'IA qui arrivait, donc le Vision Pro on en parle beaucoup moins.
Parlons-en, tiens.
Juste un dernier truc sur Zuckerberg. Ce qui était intéressant, je trouve, c'est que dans sa conférence, il a parlé des modèles économiques et comment ils veulent gagner de l'argent avec l'IA. Donc, il a dit, on va mettre de la pub dans les chatbots. On va permettre aux entreprises qui sont sur WhatsApp, sur Messenger, d'avoir des chatbots en IA qui vont nous payer pour ça.
Faire des petites vidéos courtes aussi, je crois.
Et après, il a le troisième truc qui était très intéressant, c'est qu'il a dit, on va faire payer l'accès au modèle. Et donc, le modèle open source sur lequel ils sont bâtis pour l'instant, il va pas durer en fait. Et Mistral a fait la même chose en fait. Et donc ils ont dit les gros modèles qui seront les plus puissants, on va faire payer l'accès. Et donc c'est un peu un revirement un peu stratégique, parce que justement l'IA ça coûte tellement cher que l'open source, c'est peut-être pas assez pour rentabiliser tous les investissements.
Surtout, et on en a parlé hier, je vous renvoie encore au replay de l'émission d'hier, autour de l'open source. Enfin, là aujourd'hui, ce qu'on voit, tous les commentaires des développeurs qui testent, ils sont plutôt très très positifs autour de ce Llama 3. Vraiment, je te vois.
Non, mais parce que j'ai creusé un peu le sujet sur l'open source et j'écoute beaucoup d'experts d'open source, et il y a un gros débat quand même dans la communauté. En fait, on devrait parler plutôt visiblement pour une grosse communauté des techniques, des techniciens, d'open weight. Mm-hmm. En fait, c'est pas vraiment l'open source tel qu'on l'entend historiquement avec le code et la clé du code. C'est plus des poids, effectivement, avec des fichiers qu'on télécharge et qui sont effectivement, pour le coup, eux, open. Hein, donc, c'est plutôt de l'open innovation, finalement, que de l'open source, ce que fait Meta. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, voilà. Et clairement, c'est pour accélérer l'adoption. Aujourd'hui, il faut que Meta, comme d'autres, aille vers ces modèles, et Mistral aussi, ces modèles d'adoption, parce que c'est une course de vitesse. Comme toujours, c'est une course de vitesse. La temporalité, elle est essentielle dans les sujets qui sont les nôtres. Donc aujourd'hui, plus on a de gens qui manipulent aujourd'hui du code, des algorithmes, des lignes de code et des modèles à construire, plus ça va aller vite, mieux c'est. Mmh. Et tout le monde y gagne. Et juste un mot sur l'immersif, parce que je commence seulement à comprendre que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout le monde immersif et l'IA sont en fait un univers commun.
Complètement.
Et sa Meta, pour le coup, a une vision d'avance.
Complètement.
Et je ne savais pas, j'ai découvert un peu le sujet, j'avoue, volontiers, il y a l'année dernière. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les communautés que construisait Meta autour de ses premiers casques, dans les univers virtuels, les premiers métaverses, étaient tout à fait cohérents avec ce qu'on vit aujourd'hui.
Parce qu'il y a les décors qui sont en calcul, d'un nouveau genre.
Oui, tout à fait.
Justement, tiens, on parlera de Mistral dans la deuxième, juste après 20h30. Apple, tu as abordé le sujet, les ventes du Vision Pro qui s'avèrent bien plus faibles que prévu. Mais quand on dit bien plus faible, c'est vraiment bien plus faible. Il y avait 200 000 précommandes lorsqu'ils l'ont annoncé il y a près d'un an. Hein. Mmh. Finalement, les mois passent vite, on se rend pas compte, mais on va arriver bientôt à la première date anniversaire. Là, le souffle retombe. Apple dit 400 000 commandes.
Enfin, pas Apple, l'analyse.
Oui, les analyses, pardon. Les analyses disent 400 000 ou 450 000 commandes contre 800 000 prévues. C'est quand même moitié moins. Alors certes, il y a ce prix, hein, 3 500 dollars. Il y a la machine aussi qui est un peu lourde à l'usage. Les gens étaient un peu déçus. Les applications aussi, voilà. Et puis la communication d'Apple qui a été sur c'est pas un casque, c'est un ordinateur. Donc vous allez faire plein de choses dessus. Donc là encore, il faut se positionner. Là, quel est ton regard sur ça?
Moi, je pense que les chiffres, bon, qui vendent 800 000, 400 000, 1 million, Apple, ils s'en fichent un peu. En fait, c'est pas ça l'intérêt. C'est ce qui était important avec le Vision Pro, la première version en tout cas, c'était de lancer une dynamique, de montrer alors ce qu'ils appellent l'informatique spatiale, de dire on a un ordinateur sur les yeux et ça va changer la façon dont on travaille et dont on se divertit. Et bien finalement, ça fait quelques mois, il est sorti en février si je ne dis pas de bêtises, le Vision Pro. On n'en parle quasiment plus en fait. Et on est passé à autre chose. Et je pense que c'est le vrai échec du Vision Pro, en tout cas pour l'instant, c'est ce côté-là.
Il a été rangé sur l'étagère.
Il n'y a pas d'excitation vraiment des consommateurs et même des développeurs. Aujourd'hui,
il n'est pas en Europe. Hein.
Non, il n'est pas en Europe, il n'est que aux États-Unis. Mais il y avait récemment une étude qui est tombée. Il disait qu'il y a une semaine où il y a eu zéro application, de nouvelles applications sur l'App Store du Vision Pro. Donc il n'y a pas l'engouement qu'avait peut-être espéré Apple. Après, il y a le prix, il y a plein de choses qui expliquent cela. Mais je pense que c'est ça plus l'échec, plus que les ventes, en fait, pour l'instant, en tout cas.
Je pense que je me suis amusé à faire un peu quelques petites comparaisons pour essayer de comprendre si oui ou non c'était vraiment.
On rappelle, hein, tu as cofondé et tu es président de WeSeer, qui est pas dans les casques, mais voilà, qui est spécialisé en toutes ces interfaces homme-machine. Donc voilà, ce genre de projet t'intéresse particulièrement.
Ça m'amuse beaucoup. On a effectivement le Vision Pro au bureau avec lequel on joue un peu en ce moment. Mais donc justement, en fait, si on regarde, la comparaison qui m'intéressait, moi, c'était de me dire. En fait, le Vision Pro, on peut pas le comparer à l'iPhone. C'est pas un marché qui est déjà mature dans lequel on va lancer un produit. Donc, la bonne comparaison, puisqu'on parlait d'ordinateur, c'est peut-être le premier ordinateur d'Apple. Donc, le premier MacBook qui sort qui s'appelle le Macintosh, qui sort en 84. Et donc, en 84, il y a 7 millions d'ordinateurs aux US. Et dans le premier trimestre de vente après le lancement du produit, Apple fait 70 000 ventes. Très bien. Pour le Vision Pro, aujourd'hui, on a à peu près 20 millions de casques de réalité augmentée et réalité virtuelle aux US. Et ils font 200 000 ventes. Du coup, si jamais on compare, pour moi, en fait, ils sont sur la même tendance que ce qu'on pouvait observer à l'époque.
C'est pour ça que les chiffres, ce que dit Jérôme, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres.
Exactement. Et il y a un chiffre un peu plus intéressant, c'est que le premier Macintosh coûtait 7000 dollars en dollars de 2023, 2500 dollars à l'époque.
C'est très cher. Hein.
C'est très cher, en fait. Et donc, pour moi, c'est vraiment, là, on est en train de se rendre, pour moi, on est peut-être en train d'assister au lancement du Macintosh de la réalité augmentée, en fait. Mm-hmm. Et donc, partant de là, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le lancement du Macintosh était un échec a posteriori? Je ne pense pas. Est-ce qu'à l'époque, j'ai pas relu tous les BFM de 2000 1984.
Les zéros informatiques, on en parlait.
Mais voilà.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Donc je pense que c'est aussi ça, c'est toujours pareil. On a ces biais d'analyse, on a une tendance à vouloir tout regarder à une échéance très court terme. Et moi, ce que je vois quand même, c'est ça, c'est que ces grands groupes, ils sont en train d'investir massivement sur les technologies du futur. Et ça, c'est intéressant. Après, est-ce que c'est eux qui vont le craquer? Je sais pas. Mais ils sont en train d'investir et ça montre bien qu'ils veulent être encore là dans 20 ans. Et ça, c'est la partie la plus importante.
Et moi, je pense beaucoup aussi, je me dis beaucoup que ça reste cher, mais que le Vision Pro, c'est un laboratoire aussi. Il y a plein de technos qui vont peut-être être très miniaturisées, qui seront sur des lunettes un peu comme les Ray-Ban, ils vont peut-être signer avec un autre lunetier, mais que là, il y a quelque chose aussi. Ils vont utiliser un peu toutes les technos qu'ils utilisent, peut-être les faire différents autres accessoires.
Bah, les deux trucs qui, moi, m'ont vraiment marqué, donc j'ai beaucoup utilisé dans les transports, dans l'avion. En gros, ça, c'est vraiment incroyable parce que vous travaillez en fait, comme à votre bureau, quoi. Et ça, c'est vraiment très cool. Alors que sinon, vous avez toujours la personne devant vous qui s'allonge, votre ordinateur qui est comme ça, c'est désagréable. Et la deuxième partie que je trouve vraiment très intéressante, c'est la capture de vidéos spatiales. Et donc là, en gros, en soi, il n'y a pas forcément d'innovation technologique, mais il y a une innovation de UX de la part d'Apple, où en fait, en gros, vous appuyez sur un bouton et d'un coup, vous prenez une vidéo. Et je l'ai fait, et en fait, je l'ai fait chez moi, je l'ai fait à différents endroits. Vous prenez la vidéo et puis vous pouvez regarder ça un jour, deux jours, une semaine après. Il y a vraiment un sentiment d'immersion. Et donc, je pense que ce qu'on est en train d'observer, au-delà juste de ces nouvelles ordinateur digital, c'est peut-être la création d'un nouveau type de contenu. Et c'est peut-être ça, en fait, l'innovation. On arrive encore à ces histoires de il faut tester plusieurs choses. Hein.
Ouais, oui.
Mais c'est peut-être ce nouveau type de contenu qu'on va pouvoir consommer, qu'on va pouvoir utiliser, qui va rendre l'expérience incroyable et qui va faire que les gens vont être prêts à acheter ce type d'objet.
Et d'ailleurs, on voit, hein, puisque là, on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais Meta a ouvert hein, son Horizon OS à d'autres. Donc il y a Asus, il y a Lenovo, il y a Xbox aussi qui pourrait être intéressé. Donc on voit peu à peu tout ça est en train de s'ouvrir. On entre dans une bataille du casque.
Moi, j'attends de voir. En fait, je suis assez sceptique. Enfin, moi, ça ne me parle pas, en fait, cette technologie. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça ne parle pas, en fait. Parce qu'il y a le fait d'avoir un casque, d'être coupé du monde. Et d'ailleurs, Apple, à chaque fois, il n'y a qu'une seule personne. Dans les démonstrations, il y a toujours une seule personne. Il n'y a jamais une famille qui est avec leur Vision Pro. Donc, voilà, moi, j'attends de voir. Et pourquoi pas, après...
Si on achetait 5,
c'est sûr.
Mais c'est une rupture vraiment très importante. Et je pense qu'elle est beaucoup plus importante que la rupture du smartphone, en fait. Et donc, pour l'instant, moi, je suis assez sceptique. J'attends de voir et je ne suis pas sûr que ça va marcher, en fait.
Et puis, tiens, une petite anecdote, on en a parlé cette semaine aussi, c'est le rachat d'une entreprise française qui s'appelle Datacalab, alors qui a pivoté, mais qui avait travaillé beaucoup sur la reconnaissance d'émotions sur le visage. Et Apple les a rachetés. Alors, la chose est sortie, aurait dû être un peu plus secrète, elle est sortie, ils les ont rachetés en décembre. Et là, je pense que les brevets, on a beaucoup parlé, les brevets de reconnaissance de visage, on les voit bien intégrés dans l'Apple, le Vision Pro, et ça pourrait peut-être être une killer, enfin, une des applications, une des fonctions de ce Vision Pro. Allez, on va marquer une pause, on va retrouver l'économie avec Marjorie Adelson, ce qu'il faut retenir de l'économie aujourd'hui. Et puis, on va revenir juste après, on va parler de Mistral, le OpenAI français qui envisagerait de lever encore 500 millions, ce qui valorise déjà l'entreprise 5 milliards, sans chiffres. Il y a les ventes, mais il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas de revenus toujours plus importants. Donc, on va en reparler. On parlera de la Chine qui dévoile sa nœud cyber, son Neuralink version chinoise. Et puis, la majorité à 15 ans, viable ou pas? C'est Emmanuel Macron qui aimerait ça. Allez, on marque une pause et on se retrouve juste après Journal de l'Écho.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On l'apprenait il y a quelques jours, Mistral OpenAI français, si on peut l'appeler comme ça, envisagerait de lever quelques centaines de millions d'euros supplémentaires, une valorisation à 5 milliards de dollars. Yacine, alors tu avais mis ce sujet-là en te disant, mais qu'est-ce que ça veut dire toutes ces valorisations pour des entreprises qui génèrent très peu de revenus?
Alors je vais d'abord faire un petit disclaimer, comme on dit en anglais. Je pense que les fondateurs de Mistral font tout ce qu'il faut et très bien pour leur boîte. Maintenant, en gros, ce que moi je ne comprends pas, c'est la stratégie française derrière. Donc, c'est-à-dire qu'on veut faire de Mistral AI le OpenAI français, mais du coup, on laisse des investisseurs américains venir se gaver sur les potentielles plus-values de cette entreprise.
Et Microsoft
également. Et en fait, à côté de ça, on est aussi en train de se dire, en fait, on force cette boîte à faire des petites levées, je mets des guillemets sur petites levées, mais des petites levées tous les 6 mois, ce qui prend du temps en fait à l'équipe, qui prend du temps à l'ensemble de l'entreprise. Alors qu'en fait, si on veut vraiment créer un champion européen, il faut vraiment qu'on se dise, la France et ou les États européens se mettent d'accord et on investit 10 milliards d'un coup sur un candidat qu'on veut être le poney européen et qui va plus rapidement peut-être arriver au niveau d'OpenAI. Là, j'ai l'impression qu'on a un peu de rentrer dans une course, mais avec 4 tours de retard, quoi. Et mais au lieu d'essayer de vraiment mettre le turbo, bah, on démarre tranquillement, progressivement, et on espère que dans 4-5 ans, on sera au même niveau qu'OpenAI, ce qui me paraît complètement inconcevable, quoi. C'est un peu lancer Bing après que Google ait lancé son moteur de recherche.
Ben, est-ce qu'on est sûr de la vision française, franco-française de Mistral AI? Moi, je ne suis pas certaine, je ne sais pas, je pose la question. Est-ce que ce n'est pas un exit qui est recherché derrière, justement, pour faire grossir l'écosystème mondial et prendre sa part dans l'échiquier? Ce qui est une logique qu'on connaît bien dans la tech, hein, c'est une logique plus court-termiste. Moi, je pense que vu les investissements qui ont été faits, la nature des investissements et les investisseurs, la typologie des investisseurs, notamment, on le sait, les acteurs américains, tu l'as dit, ça paraît clair que... Enfin, moi, je mets ma main à couper qu'il y a un exit dans les 3 ans qui viennent.
Mais du coup, c'est un problème, parce qu'on a...
Par
rapport au narratif
bien
de Mistral, et par rapport aussi à l'ambition française qu'on est en train d'essayer de pousser, de dire il faut des champions européens. C'est pour ça que je dis, je pense que les fondateurs font tout très bien.
Surtout qu'ils l'entraînent aux États-Unis, hein, parce qu'on n'a pas la puissance de calcul ici. Jérôme ?
Non, bah déjà, pourquoi ils vont chercher les investisseurs américains ? Parce que les investisseurs européens n'ont pas d'argent, pas suffisamment d'argent pour investir 500 millions de dollars dans une entreprise. Il faut être clair, il n'y a que les Américains aujourd'hui qui ont la surface financière. On ne va pas aller chercher de l'argent. Alors la BPI va mettre de l'argent, mais ils ne mettront jamais une somme aussi importante.
Ils pourraient. Dans les faits, on a des plans à 50 milliards sur 5 ans. On pourrait
oser une fois au lieu de saupoudrage. C'est vrai qu'il y a parfois un peu trop de saupoudrage.
Ce n'est pas le but de la BPI. La BPI ne va pas miser tout sur une entreprise. Elle ne va pas mettre 2 milliards sur une entreprise, par exemple.
Dans BPI, BEI, par exemple, Banque européenne d'investissement, la Commission européenne a des programmes très spécifiques.
Mais je ne pense même pas qu'ils le veulent, en fait. Eux aussi, ils ont une logique où l'argent des investisseurs américains, elle est très bien parce que ça leur permet de se faire des connexions, d'ouvrir des portes qu'ils ouvrent pas, qu'ils ne vont pas ouvrir avec la BPI ou avec d'autres investisseurs. Et sur la volonté d'être un champion européen. Ce qui est intéressant, c'est que dès que l'IA Act a été voté, donc la réglementation européenne sur l'IA, où ils étaient vent debout contre cette réglementation, où ils ont dit ça va nous handicaper contre les Américains, il ne faut absolument pas la voter. Dès qu'elle a été votée, le lendemain, ils ont officialisé leur accord avec Microsoft. Oui. Ils ont fait entrer Microsoft dans le capital. Donc il y a quand même aussi un double discours. Est-ce qu'il y a une volonté... Je pense que eux, c'est pas leur... Enfin, ils ne sont pas là à savoir est-ce qu'on est européen, est-ce qu'on est français. Dans l'IA aujourd'hui, de toute façon, c'est international, toutes les boîtes sont internationales.
Il faut qu'ils engrangent de la data.
Eux, ils sont pas ils jouent un peu sur la carte, la souveraineté, la carte française, la carte européenne, mais au fond, pour leur business, c'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'argent, c'est de recruter des ingénieurs et c'est de faire de l'IA qui marche.
Et encore une fois, c'est ce que je dis. Moi, de mon point de vue, je pense que les fondateurs font tout très bien. Je pense
tu mets la question sur la.
Juste la question sur la narrative. Et par exemple, le fait d'avoir un Cédric O qui est au capital de cette entreprise et qui derrière sort des millions, parce que justement c'est censé être le représentant du gouvernement. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence quand même, où il y a quelqu'un qui se fait léser à la fin et c'est l'État français et c'est nos impôts?
Mais c'est un super héros, Cédric O, tout le monde le sait, maintenant c'est public et on le sait. Il a mis un tout petit billet et il a un héros. C'est un peu business as usual, j'allais dire. C'est pas si surprenant que ça.
Après, quand on parle européen, il ne faut pas oublier Aleph Alpha, qui est l'équivalent allemand, qui est le concurrent de Mistral. Et puis qu'on a des Lighton, on a aussi d'autres entreprises aussi.
Mais on peut laisser partir Mistral AI et j'allais dire, moi j'ai pas d'avis là-dessus, ça appartient aux investisseurs plutôt. C'est vrai qu'on peut avoir quand même des questionnements sur la question de la souveraineté qui revient partout, qui est un buzzword aujourd'hui. Et malheureusement, c'est un buzzword parce que c'est malhonnête en fait par rapport. On sait très bien aujourd'hui que les capitalisations des grosses startups stratégiques aujourd'hui sont multipolaires. Enfin, on le sait, il y a des startups très très franco-françaises qui ont des boards à 5 continents qui sont stratégiques pour la France. On n'a pas beaucoup de problèmes à revendre l'année dernière CryptoSense, qui fait des clés de chiffrement RSA, spécialiste de la cybersécurité hautement stratégique pour la France. Google via Eric Schmidt a mis un pied dedans, ils nous ont racheté, personne n'en a parlé. Donc, et après on va dire bah oui, mais la souveraineté c'est important, il y a des sujets importants. Il y a quand même un double discours et il faut être clair, à un moment donné il faut clarifier les choses.
Le fondement du marché aussi, donc
quand ce sont des représentants politiques qui le disent, ça pose un petit souci quand même.
Mais encore une fois, sur des sujets aussi stratégiques, parce qu'on est en train de parler d'IA, on parle de chips, là on va parler après potentiellement d'interface neurale. Je veux dire, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et si on veut avoir une Europe qui est forte sur ces sujets, il faut avoir des champions, mais même limite qu'on contraint à rester européen, à rester dans le giron européen, à respecter. Mais je veux dire.
Mais c'est pas beau. En fait, moi je veux bien, j'entends bien ça. Et c'est même le débat quand on dit pourquoi les entreprises du CAC 40 vont chez Google ou Amazon ou Microsoft et pas chez OVH. Le débat, la souveraineté, c'est sur le papier, c'est très bien. mais après il y a les faits en fait. Et pour Mistral, si Mistral veut rester forcément qu'européen, eh bien, ils ne pourront pas rivaliser avec d'autres, et enfin, avec les acteurs américains. Il faut être aussi assez sur ça, c'est la réalité aujourd'hui.
L'idée de Marion et Yacine, c'est de dire, mais finalement on pourrait avoir les fonds en Europe.
Mais si demain on avait Sodexo, LVMH, Kering, on vient d'entendre.
Mais ils n'ont pas 500 millions de dollars à mettre.
Il y a des fonds de family office gigantesques, des fonds de pension.
On ne sait pas investir sur des technologies de rupture.
Regarde Qtai, hein, t'as Xavier Niel, Rodolphe Sadé.
Mais c'est des initiatives personnelles. C'est des grandes fortunes qui vont le faire. Après, est-ce que quand t'es un fonds, tu mets autant d'argent sur une entreprise, une seule entreprise, est-ce que c'est bien aussi? Voilà, est-ce que l'État, si la BPI met 2 milliards ou 500 millions dans un Mistral, est-ce que c'est une bonne idée ou pas?
En Chine, hein. Et ça marche.
Avec la Chine non plus.
Mais au bout d'un moment, il faut rattraper le gap technologique. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que on peut pas rester. Surtout, mais encore une fois, c'est qu'on a raté complètement le virage Internet. On n'a pas une seule boîte européenne qui tient la route d'un point de vue consumer grand public. Les Google, les Meta, les Apple, ils sont pas en Europe. Maintenant, là, on sait qu'il y a des nouvelles révolutions qui arrivent. Donc, je veux dire, il faut prendre des décisions qui sont un petit peu drastiques. Et alors, est-ce que c'est peut-être il y a un double effet, il y a un effet carotte et bâton. Il faut avoir peut-être plus de recherche, plus de subventions pour la recherche, faire en sorte que nos chercheurs sortent avec plus d'idées de boîtes et lancent des startups. Et c'est peut-être ça qu'on doit faire, et c'est peut-être ça qu'on doit accompagner encore plus.
Mais c'était un peu accéléré. Hein,
oui, mais on est quand même très loin. J'en parlais là récemment. J'étais à l'AG de France Deep Tech il y a deux jours. Il y a quand même une énorme différence quand on nous explique qu'en France, quand un chercheur veut sortir avec un projet qu'il a développé de l'INRIA ou d'autres, il faut, mais c'est des montagnes de documentation pour réussir à lancer une start-up associée. Aux États-Unis, moi je connais 10 personnes.
Et on ne parle même pas dans la biotech et dans la santé.
Exactement. Donc au bout d'un moment, en fait, je ne dis pas que c'est la seule façon, c'est de contraindre. Mais juste qu'en fait, si on arrive et qu'on soutient des boîtes qui s'annoncent et qui se présentent comme des boîtes qui veulent être souveraines, qui en plus de ça en jouent et lèvent des fonds sur cette base-là, puisque BPI fait partie des investisseurs initiaux et met des sommes très conséquentes, il faut que derrière il y ait un engagement de ces boîtes-là vis-à-vis de l'Europe. Et ça, je pense que ce n'est pas absurde de le demander.
Après, il y a aussi une barrière qu'on oublie souvent. Dans le schéma business qu'on connaît bien, l'économie de la tech, c'est aussi le pouvoir du lobbying, qui est très très puissant pour déconstruire les discussions qu'il peut y avoir dans les couloirs.
L'Europe qui, si elle voit tout ça, va dire attendez, pourquoi on met tout cet argent-là ? Enfin voilà, on va avoir des. Allez, on va partir en Chine. Je vais te passer la parole, Yacine, parce que tu connais bien.
En mandarin.
Voilà. avec un peu de.
Il est un peu rouillé en mandarin, mais.
un peu d'IA, je suis sûr qu'on pourrait y arriver. Donc c'est la Chine. Alors, Neucyber, la société s'appelle Beijing Jingxida Neurotechnology. Alors, je ne sais pas, je pense pas, c'est pas exactement pareil que Neuralink, c'est moins invasif que Neuralink, mais en tout cas, ils lancent leur puce cérébrale pour concurrencer Neuralink. Donc là encore, alors qu'est-ce que toi qui connais bien toutes ces interfaces neuronales, Yacine, avec ta société Wizard notamment, qu'est-ce que tu en dis?
C'est toujours assez compliqué de trouver des informations sur les entreprises chinoises, donc je peux pas vous dire exactement ce qu'ils font. Par contre, je vais rester dans la lignée de ce que je viens de dire. Je pense que les interfaces neurales, c'est un sujet qui va arriver, qui arrive en fait, on parle de Neuralink, mais c'est un sujet à horizon 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Je pense qu'en Europe, on aura peut-être d'abord une législation avant de penser à faire des startups, mais dans le reste du monde, c'est bien quand même de voir qu'il y a des boîtes qui se lancent et qui sont soutenues par le gouvernement et qui sont sur des sujets finalement de pointe. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à devenir un leader à moyen terme. Donc le fait d'avoir une entreprise chinoise qui vient concurrencer Neuralink, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Je ne me mettrai pas plus ça dans le cerveau, hein. Mais je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je pense que ça prouve que justement la partie brain-computer interface, interface homme-machine, interface cerveau homme-machine, je ne sais pas comment dire.
Oui. Homme-machine.
Comment?
Homme-machine.
Mais interface homme-machine, c'est général.
Cerveau.
Brain-computer interface. Ouais, voilà. Interface cerveau-machine peut-être. Pour moi, c'est important que justement il y ait des initiatives locales qui se lancent et qui ne soient pas toutes centralisées aux US. Parce qu'en fait, c'est tellement celui qui va être important le jour où cette technologie-là va arriver à maturité que si jamais on n'a que le choix entre Neuralink, Synchrone et la brain chip de OpenAI, on va se retrouver dans une situation très compliquée.
Synchrone, c'est celle dans laquelle Bill Gates et Amazon ont mis.
Sur Bill Gates, je ne sais plus, mais oui. Enfin, Synchrone, c'est le concurrent. Ouais, Synchrone, Paradromix, qui pose plus avec l'armée, et Neuralink aujourd'hui dans les implants invasifs.
Marion, sur cette histoire d'implants.
J'avoue que ça me fait peur. Moi, je suis très très honnête. Alors, dans le domaine de la santé, oui, mais alors très encadré, quoi. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que là, c'est une science qui est complètement ouverte et on parle quand même d'enjeux qui sont vachement importants, quoi. C'est en termes d'éthique, en termes de danger. On le sait bien, ça a été très dangereux les premiers essais. Donc,
en plus, on a un Elon Musk qui lui pousse la chose.
Voilà, qui est pas tout à fait raisonnable.
Les excès que l'on connaît de sa part, même si il a plutôt de la réussite.
Oui. Ce qui me fait peur, c'est l'espace marketing que ça représente derrière. Je ne dis pas que ça le sera, mais enfin, on sait bien aujourd'hui que tout ce qu'on peut connecter peut devenir demain marchandisable. Mmh. Moi, ça me fait peur. Je me dis jusqu'où ça va aller demain, à quel moment on va pouvoir être souverain dans nos corps. Voilà, souverain dans nos corps. C'est un peu ça.
Jérôme, ça t'inquiète cette...
Non, mais moi, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer, en fait. Et après, bien sûr, il y a toujours des inquiétudes et à voir comment ça se passe. Et quand on parle d'Elon Musk, c'est très invasif, donc il y a des problèmes aussi de santé publique et des choses comme ça. Mais
là, ils l'ont testé alors sur une personne, ouais. Mais voilà, qui avait de gros soucis de paralysie. Enfin voilà, on est quelqu'un qui déjà souffrait beaucoup, donc
il est encore vivant,
oui. Mais qui voilà avait peut-être un moyen de s'en sortir. Il y a eu quelques progrès, mais
Après ce qu'a annoncé, enfin l'annonce qu'a fait Neuralink, je crois que c'est pas, enfin je suis pas sous ton contrôle, mais c'est pas très révolutionnaire en fait la façon de pouvoir contrôler un ordinateur avec la pensée.
Non, on parle des chercheurs, hein, l'INRIA, ils ont déjà des choses avec les électrodes. On peut...
Là, ce que Neuralink propose, ça va beaucoup plus loin de soigner Alzheimer, soigner la paralysie, des choses comme ça. Et là, c'est là où vraiment où on va voir si ça va marcher ou pas. Et à voir, moi, je n'ai pas de compétences techniques pour savoir si c'est possible ou pas.
Peut-être là où je reviens à ce que dit Marion, c'est que je pense qu'effectivement, c'est hyper important que ce type de technologie soit très bien encadré. Mais pas forcément... je pense que pour moi, c'est un peu des logiques comme le nucléaire.
Pas forcément régulé.
Au bout d'un moment, il faut que ce soit... Ce n'est pas des consortiums locaux ou régionaux. Nous, on essaie de suivre un peu avec Wizir. On est sur tous les chartes neurosciences en Europe. On est sur la même chose aux États-Unis pour essayer d'être le plus tôt possible engagé dans un processus où on définit le cadre un peu de ce que ça veut dire qu'une une innovation éthique. Et je pense que c'est des choses qui, pour moi, à mon sens, devront être régulées à l'échelle mondiale et pas juste à l'échelle locale ou nationale. Mais du coup, effectivement, ces technologies vont arriver. Et donc, pour moi, c'est non seulement une histoire de définir le cadre peut-être légal et éthique, mais il faut aussi effectivement se dire que c'est OK de développer ces technologies-là et de soutenir des champions locaux, parce que sinon, encore une fois, on va se retrouver à devoir utiliser les chips de deux pays qui ont poussé cette innovation-là. Quoi.
En plus, je ne sais pas si on mettra plutôt la Neuralink que la puce chinoise.
Ou un combo des deux, comme ça, en gros, c'est...
on verra tout ça. Allez, tiens, on va revenir en France. Alors, c'est Emmanuel Macron, je vais reprendre ses mots. Est-ce qu'on envoie un enfant dans la jungle? Et Emmanuel Macron plaide pour une majorité numérique à 15 ans en Europe. Voilà, davantage de... Alors évidemment, ça suit tous les effets que l'on a entendus, dont certains tragiques, l'utilisation des réseaux sociaux, le harcèlement, enfin tout ce qu'il peut y avoir, les mauvaises influences qu'on peut avoir sur ces réseaux, le temps que l'on peut passer, le temps où on peut s'abrutir aussi, mais ça, c'est les adultes aussi. Mais voilà, pour des jeunes, on perd un peu dans la culture générale, on perd dans la lecture, enfin voilà, on a tout un tas de... Il y a des choses évidemment bénéfiques, mais il y a aussi beaucoup de choses seulement un peu comme dans la jungle. Dans la jungle, il y a des choses merveilleuses, mais aussi des serpents, des fauves et des plantes qui peuvent nous tuer. Qui veut commencer sur ce sujet-là?
Sur Marion. La majorité numérique, oui. C'est un vieux débat. Hein. Mmh. On a eu plusieurs fois des débats sur à quel âge on donne un smartphone à
déjà,
notre enfant.
Déjà, si c'est possible.
Exactement.
Techniquement.
Techniquement, lequel? Est-ce que c'est un smartphone ou un téléphone à touche? Enfin, c'est un débat qui a quand même une dizaine d'années sur le sujet du critère âge.
C'était sur l'accès au site porno, notamment. C'était
oui,
ça,
mais
un
en
peu
fait,
les premiers.
Comment on va mettre ça en application? C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui. L'intention est bonne. Je pense que la question se pose clairement. Moi, j'ai un enfant de 14 ans, une de 18, donc je suis bien dans le sujet de toutes les mamans et de tous les papas qui jouent un peu la police, quoi, hein, donc c'est qui surveillent. C'est pas tellement l'âge, en fait. C'est plus comment on va mettre en application une bonne intention, sachant qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'accès à n'importe quel contenu aujourd'hui se fait très facilement, même pas besoin de hacker. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas encore contraint les grands éditeurs de porno, par exemple, de à pouvoir mettre en place des certifications d'authentification particulières, etc. Donc, il faut à nouveau, mais le combat est rude, plutôt s'attaquer au process d'authentification que à des critères qui, en plus, vont être selon les pays.
L'identité numérique, là, comme on imagine un jour tout savoir, est-ce que ça pourrait être une solution? On est anonyme derrière cette identité numérique. On aura un numéro, un peu comme un numéro de sécu ou un code, enfin quelque chose d'alphanumérique. Et puis derrière, alors on aurait nos data, mais en tout cas, lorsqu'on se promènerait sur les sites, on n'aurait pas moyen de. On verrait si on a plus de 18 ans ou pas.
Je suis un peu d'accord avec Marion encore une fois sur le sujet. C'est-à-dire que je pense que c'est très compliqué aujourd'hui d'interdire l'accès à quoi que ce soit. Mais ça, c'est c'est une histoire de plusieurs millénaires. Je veux dire, on a même à l'époque, si jamais vous vouliez accéder à des magazines un peu coquins, vous pouviez le faire. Il fallait trouver quelqu'un qui voulait. Donc, la logique d'interdire l'accès à du contenu existant, j'ai du mal à voir comment on fait ça. La logique ensuite, qui me paraît moi la plus saine, mais qui est la plus compliquée à mettre en place, c'est une logique d'éducation. En fait, c'est ça qu'on essaie de faire vraiment. C'est plutôt d'essayer d'éduquer les jeunes à ne pas consommer tel ou tel contenu ou à comprendre l'impact que tel ou tel contenu peut avoir sur eux. Mais la protection par l'interdiction, en fait, ça donne encore plus envie d'y aller d'une certaine façon. Donc j'ai du mal à comprendre comment le.
Mais est-ce qu'on pourrait pas faire. On parlait tout à l'heure de Mark Zuckerberg qui teste avec ses lunettes, qui teste avec son, avec son métaverse. Est-ce qu'on pourrait pas y aller aussi en testant
Bien
en
sûr.
Disant, bah, tiens, allez, maintenant c'est obligatoire, il faut la carte bancaire. Et puis ça va râler, on va dire, mais c'est pas exactement ça, mais au moins c'est déjà un premier pas et ça va déjà freiner 60 ou 70% des excès.
Mais en fait, les solutions techniques elles sont difficiles à mettre en place. Et au Royaume-Uni, par exemple, il y a une loi qui a été votée il y a plusieurs années pour interdire, pour vérifier l'âge pour accéder aux sites porno. Ça n'a jamais été mis en place en fait, parce qu'il n'y a pas de système aujourd'hui qui existe. Ah oui. Tous les systèmes ont des inconvénients en fait. Et il y aura toujours un système qui ne va pas marcher parce que pour tel cas de figure, donc c'est assez compliqué sur l'interdiction aussi. Après, c'est vrai que majorité numérique, ça veut dire quoi Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'école, on vous encourage à aller sur les ordinateurs aujourd'hui, on vous encourage à utiliser les écrans, on vous encourage à utiliser l'IA.
La sixième, les exercices, c'est sur YouTube,
Donc on a un peu un double discours en disant oui, il faut protéger les enfants parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est. Mais bon, après les écrans aussi, et puis il faut pas rater le virage de l'IA, il faut former à coder, il faut former. Donc c'est assez, c'est un double discours en fait.
Frédéric, toi, t'es dans la tech depuis de nombreuses années. On a déjà eu plein de conversations autour de ces sujets-là, mais il faut quand même revenir. Je veux pas dire que voilà, on pourra pas refaire l'histoire, mais ce qui est certain, c'est que quand je ne sais plus quel ministre dit c'est le Far West, le numérique, c'est pas totalement faux. Tout s'est construit quand même un petit peu après le. Moi, je me rappelle, on faisait payer les CD-ROM chez Club Internet, et c'était finalement la première barrière à l'entrée. Et si on payait pas son forfait et son CD dans l'ordinateur, on n'avait pas Internet. Et quelque part, bon, c'était hier, ça c'était il y a très longtemps. Quand tu disais la carte bancaire comme point de porte d'entrée, et donc quelque part d'une série de bons comportements, j'espère. Le web est tout sauf standardisé, en fait. Tout le monde a fait un peu ce qu'il a voulu. Il n'y a pas de standardisation aujourd'hui. D'ailleurs, l'Inde a son propre système d'ID, qui est d'ailleurs assez controversé, mais qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, on a bien envie, d'ailleurs, de reprendre un peu le modèle indien.
Est-ce qu'une identité numérique permettrait d'avoir...
Oui, c'est une question qui revient en permanence. Mais nous, on a nos garde-fous. Il y a la CNIL, il y a toutes les instances qui disent « Oh là là, attention, si demain on a un identifiant unique, on risque de faire des croisements de bases de données, ça ne va pas du tout. » Alors qu'en fait, il y a quand même un vrai sujet qui se pose, parce que le Far West numérique, avec tout ce qu'il a de meilleur et génial, et tout ce qu'il a d'horrible, on ne pourra plus le standardiser, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui collectivement pour essayer de trouver des systèmes standardisés c'est possible que demain il puisse se monter des business
aussi. Après, il y a aussi peut-être qu'on doit attaquer application par application. Là, aujourd'hui, on conteste alors les réseaux sociaux parce qu'il y a du harcèlement, les sites porno, voilà, c'est peut-être qu'il faut prendre aussi domaine par domaine, quoi, plutôt que chercher à dire, au global, je mets mon grand parapluie Internet et c'est un peu toutes les applications. Et du coup, comme tu dis, on n'a plus accès à YouTube pour aller voir des fichiers de musique que la prof de musique a demandé ou des exercices de maths, etc. C'est peut-être ça aussi, on a un peu de mal aussi.
Personne n'a intérêt à le faire. Apple n'a pas intérêt à le faire. Android n'a pas intérêt à le faire. Les plateformes n'ont pas intérêt à le faire. En fait, c'est ça, quand je dis Far West derrière. Personne n'a touché au sujet. Parce que, encore une fois, il était question d'un web. Le web, c'est ouvert.
Eh bien, chérie, Far West,
c'est la régulation.
C'est une cavalerie.
Et c'est qu'il n'y a pas de volonté de régulation aussi.
Non.
On a vu, par exemple, en Floride, il y a une loi qui a été votée il n'y a pas très longtemps pour interdire les réseaux sociaux au moins de 13 ans et puis au moins de 16 ans, il faut l'autorisation. Mais ça ne fait pas d'unanimité, en fait. Et donc, tant qu'il n'y aura pas une volonté politique, et c'est difficile d'aller dire à des futurs gens qui vont voter dans 3-4 ans, ah ben moi je vous interdis d'aller sur TikTok par exemple, aujourd'hui on l'a vu aux États-Unis, enfin des choses comme ça, donc c'est...
Ah oui, si c'est Gabriel Attal qui signe ça et qui va venir dans 3 ans aux élections dire « Ah tiens, c'est lui qui nous a bloqué pour TikTok et Facebook ». Donc là, voilà, on n'aura peut-être pas de solution dans l'immédiat. Enfin voilà, il faut peut-être attaquer petit bout par petit bout. Mais
éducation, t'as raison. Éducation, éducation.
Et des parents aussi, peut-être aussi rappeler aux parents.
Mais les parents, parfois ils sont dépassés. Quoi.
Les parents parfois sont accros aussi. Donc,
aussi,
c'est
ça. Aussi.
Mais c'est les parents qui ont la carte bleue. Hein, quand
c'est vrai.
C'est un peu le souci. Tiens, toute dernière petite news, parce que je la trouvais assez amusante. Je sais pas, en tout cas, je trouvais l'idée, pourquoi on n'y a pas pensé avant. C'est Android. Hein. La publicité pourrait s'inviter sur les écrans de verrouillage de certains smartphones. plutôt une bonne idée, ça, non?
Ça dépend pour qui, exactement. Ouais, pour qui.
Alors, c'est vrai qu'on le disait, Amazon le fait déjà sur ses Kindle. Il met de la, il passe les de la pub, tout ouais. ça, sur les, dans la des notifications. Là, voilà, on aurait son écran et plutôt qu'on aurait une pub qui apparaîtrait.
Pourquoi c'est une pas, bonne alors. Idée business, après, ouais, c'est voilà. toujours pareil. Quoi. Je
pense l'utilisateur, qu'est-ce qu'il en retire?
Son
écran qui s'allume, temps, ouais, peut-être.
Après, ça permet de re-augmenter les prix à la Netflix. Quoi. C'est d'abord, on fait une offre ouais. moins chère avec des pubs, et puis finalement, l'offre moins chère elle devient au prix de l'offre la plus chère, et puis l'offre la plus chère elle devient encore plus chère. Ça m'a l'air assez standard comme stratégie.
Ce, que, Jérôme, ce qui pourrait arriver, parce qu'on parle de l'IA, et l'IA, quand va arriver sur les smartphones, ça a coûté de l'argent. Aujourd'hui, Samsung a de l'IA sur son smartphone, ça coûte beaucoup d'argent parce ouais. que c'est des processeurs derrière.
Pardon, alors, je pense que ça va être ça 2025.
Et du coup, et Samsung a dit peut-être que l'IA, les services d'IA seront payants. Et peut-être qu'un jour, on dira, au lieu, si vous voulez pouvoir retoucher vos photos avec de l'IA, il faut accepter la pub sur votre écran d'accueil.
Eh bien, merci à tous les trois. Merci. Yacine Yachak, donc cofondateur et PDG de Wizeer. Marion Moreau, journaliste fondatrice d'Ornorm Media, donc newsletter sur la géopolitique, sur la tech. Avec Pierre Aski notamment et Jérôme Marin, fondateur de la newsletter cafetech.fr. Merci à tous les trois merci d'avoir participé à ce débat. Oui. Tout de suite, restez avec nous. Alors, ce n'est pas Tech & Co, c'est retrouver les grands prix de check-up santé, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'innovations dans la santé. Eh bien, on récompense les meilleurs. C'est dans un instant, c'est jusqu'à 22h sur BFM Business, présenté par Noémie Lira et Fabien Guèze. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, François Sorel sera ici même, mais moi, je serai sans doute en train de tourner autour de ce plateau. Allez, excellente fin de semaine sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.